Alors, Grégoire de Nyssa, on n'est pas très sûr de de la date de sa naissance. Enfin, c'est un plus jeune frère de Basile. Alors, on pense que, certains pensent qu'il est né en 331, d'autres en 335. Ça peut aller jusqu'à 340. Alors, à l'époque, même si c'est le plus, aujourd'hui, celui dont on pense qu'il a la plus grande pénétration spéculative, également si sa théologie mystique a marqué la postérité, et de loin, aujourd'hui c'était à l'époque le plus effacé des trois Cappadociens. Il a vraiment vécu dans l'ombre de son frère. Et puis pour commencer, il n'a pas étudié dans des écoles très prestigieuses. Il a étudié à Césarée. Mais il a d'ailleurs reçu une excellente formation qui se voit dans ses écrits. Donc sa personnalité s'est, mettons, déployée à l'ombre de celle de son frère. Vous savez, il y a des plantes comme ça qui prospèrent à l'ombre d'un grand arbre. Alors, il a poursuivi les travaux de Basile, qui est mort en 379, donc notamment contre Nôme. Il a aussi écrit contre Nôme. Et puis, il a traité de multiples questions. Par exemple, commentaires de la création sur les six jours, l'Hexaéméron, sur l'anthropologie, etc. Alors, Grégoire s'est d'abord marié. Alors, c'était étonnant, parce qu'il a eu une période de doute, en fait. Et une période de doute, quand il était jeune, à cause de tout ce chaos théologique, du coup, il ne savait plus... Et comme il s'était formé à la rhétorique, il était rhéteur, donc c'était un excellent métier, il s'est marié. Et alors, au grand déplaisir de son frère aîné, et finalement, Basile va le contraindre à recevoir l'épiscopat en 372. Alors sa femme, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Alors il faut dire aussi qu'assez vite il s'est repenti de s'être marié, parce qu'en fait il avait quand même une vocation monastique au départ. Alors il s'est marié un peu par dépit à un moment, et puis un peu regretté. Je pense qu'il a dû s'entendre avec son épouse pour qu'elle devienne moniale. Et donc, lui devient évêque. Alors, il reçoit... on ne sait même pas si le mariage a vraiment été consommé. On ne sait pas trop. Enfin, pas beaucoup de nous. Alors, il reçoit l'épiscopat en 372 et son frère l'envoie dans un patelin qui s'appelle Nyssa. Qu'il a érigé comme évêché pour faire un nombre contre les Ariens. Alors il combat les Ariens, évidemment, puisque son frère le voulait, et il le fait avec courtoisie, ce qui est un peu étonnant à l'époque, et ce qui n'empêche pas d'être exilé par l'empereur Valens. Et il sera rétabli en 378 quand Théodose va succéder à Valens. Alors, la mort de Basile, évidemment, l'année suivante, va pousser son frère au premier plan, en même temps que son oncle, que Grégoire de Nazianze. Du coup, c'est lui qui va avoir l'idée de faire élire son petit frère Pierre à Sébaste comme évêque. Là aussi pour combattre les Ariens. Alors Grégoire sera apprécié par la cour impériale et il va contribuer à l'application du concile de Constantinople Donc, ce qui ne sera pas simple, hein, puisque Grégoire de Nazianze disait que les suites du concile, c'est un peu comme une bataille navale livrée dans l'obscurité. Donc, vous imaginez que la mise en œuvre du concile, parce que non seulement il y a les canons doctrinaux contre les Ariens, mais aussi tous les canons disciplinaires sur la tenue du clergé, des évêques, des fidèles, etc. Et donc, il s'agit de mettre un programme de réforme en application. Et vous savez que réformer, même quand on n'est pas en France, c'est quand même difficile. Hein? Et alors, il va finir par lui aussi par se retirer. Il mourra probablement vers 394. Alors, ses œuvres, on pourrait les classer en sept catégories. C'est ce que dit Draubner, que je suis. Alors, il y a des traités sur les problèmes théologiques de son temps. Donc, c'est essentiellement la controverse anti-arienne, donc autrement dit théologie trinitaire, christologie. Donc, il va s'opposer à Eunome et aussi à Apollinaire en matière christologique. Ensuite, il y a des traités, des homélies qui touchent à l'écriture sainte, des commentaires d'écriture en gros. Alors, il y a le hexaéméron, le inhexaéméron, c'est-à-dire sur les 6 jours de la création. C'était une sorte de. Souvent, on commentait les 6 jours. Il y a le De hominis opificio qui est sur la création de l'homme. Enfin, puis des commentaires sur l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques qui va devenir le pontosan de la théologie mystique. Ça sera avec Origène, il est l'un des premiers à le commenter. Voyez par exemple la colombe cachée dans l'anfractuosité du rocher, ses lames dans les plaies du Christ, la plaie du cœur du Christ, enfin, vous voyez des choses comme ça. Il y a la vie de Moïse, alors justement je l'ai apporté. Parce que je donne cours là-dessus. Je peux vous le faire passer, comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne un texte en. Voilà, donc c'est bilingue, c'est grec-français.
Grec-hébreu.
Faut que je mette des lunettes là. Non, mais même sans lunettes, c'est le même résultat.
Qu'est-ce qui poussait les gens à être ariens? Pourquoi il y avait cet arianisme persistant?
Alors, je pense qu'ils avaient du mal à concilier l'unité divine avec la trinité des personnes. Alors, du coup, c'est tellement simple de penser que s'il y a trois personnes, c'est qu'il y a trois dieux. Or, s'il y a trois dieux, on n'est plus chrétien, on n'est plus monothéiste, donc ça veut dire que les deux autres ne sont pas aussi dieux que celui qui l'est vraiment. Donc finalement, c'est une sorte de. Vous voyez, c'est toujours le problème de la théologie, c'est que si on veut être trop rationnel, on passe à côté de la vérité, parce que, en quelque sorte, notre raison, elle boucle trop court. En somme, il faut adopter le principe qu'on a toujours en philologie, à savoir que les lectures les plus difficiles sont les lectures les plus vraies. Hein. Le terme, le dicton latin, c'est lectio difficilior, lectio potior. Hein. La lecture la plus difficile est la lecture qui va le plus loin, parce qu'elle oblige justement à sortir des schémas trop courts. Comme dira saint Augustin, si comprehendis, non est Deus. Donc, si tu comprends, c'est que c'est pas Dieu. Donc, Dieu est toujours au-delà, comme dira saint Ignace de Loyola. Donc, il faut oser essayer de trouver une solution qui concilie enfin voilà, qui frise le paradoxe en fait.
C'est pas le poids de la liberté, c'est le poids de la recherche, la recherche dans une relation qui est mise de côté. Enfin, on se débarrasse alors.
Alors il y a de ça aussi, hein, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, ces grands théologiens sont aussi des grands mystiques. Donc ça veut dire qu'ils avaient senti que la solution pouvait pas être une solution purement rationnelle, qui satisfaisait peut-être bien la raison, mais dont ils sentaient que ça laissait passer quelque chose d'important. Et du coup, comme ils avaient une raison aussi assez bien affûtée, ils ont essayé de rendre compte de ce mystère qu'ils avaient expérimenté. Alors, là aussi, en frisant parfois le paradoxe, les oxymores, etc. Mais, donc voilà, des gens qui... C'est pour ça que, comme le disait le père Letel, hein, Carme, il n'y a de théologien que les saints, et seuls les saints sont théologiens. Ce qui est une thèse qui a été mal accueillie par l'université, évidemment. L'Institut catholique. Donc ça voulait dire probablement que c'est que dans leur grande humilité, ces professeurs avaient dû considérer qu'ils n'étaient pas des saints. Mais enfin, c'est quand même très vrai. Hein. C'est que dans le domaine de la révélation, c'est quand même on connaît par connaturalité. Et ensuite, la raison n'est que seconde. Hein. La théologie n'est que seconde. Comme je disais l'autre fois en citant Hegel, Aristote aussi, que la philosophie est comme l'oiseau de Minerve, elle prend son envol au crépuscule. Et c'est un peu vrai, la théologie, elle vient après l'expérience mystique d'une certaine manière. Alors, Grégoire... a écrit donc des commentaires bibliques, le Cantique, la vie de Moïse, un commentaire sur le Notre Père, sur les Béatitudes, etc. Puis il a aussi écrit des choses ascétiques ou spirituelles, par exemple un traité sur la virginité, ça se faisait beaucoup à l'époque. Des œuvres hagiographiques aussi. La vie de sa grand-mère, Macrine, la vie de Grégoire le Thaumaturge, In Basilium Fratrem, donc la vie de son frère, etc. Donc,
sa grand-mère, son
frère. Oui, c'est.
Il n'est pas sa femme. Hein.
Non, pas sa femme. Non. Alors, il a aussi écrit des sermons et des discours. À l'occasion de fêtes, de funérailles, sur des thèmes variés. Donc il aimait bien, c'était un littéraire, donc il aimait bien ce genre de panégyrique. Hein. Il a fait aussi une sorte de catéchisme, l'Oratio Catechetica, autrement dit un discours catéchétique, une sorte de résumé des enseignements de la foi. Et puis aussi une correspondance. Qui est là, c'est un peu réduite. Une trentaine de lettres seulement sont conservées, notamment avec frères évêques au sens du sang, quoi. Et alors Saint Grégoire de Nazianze est vraiment, imprégné de Nice est vraiment imprégné par le platonisme, d'ailleurs comme ces deux autres, comme les autres, et par la méthode exégétique alexandrine, donc qui joue beaucoup sur l'allégorie et sur la distinction entre le sens littéral et le sens spirituel. Et par exemple là dans la vie de Moïse, il va utiliser le sens spirituel au sens moral, au sens anagogique, donc au sens moral, comment Moïse est un modèle de vie morale. Alors, pas en étudiant sa vie proprement dite, mais en utilisant le texte de l'Exode, c'est-à-dire en faisant des transpositions, parfois un peu tirées par les cheveux pour nous. Ou alors, anagogique également, au sens d'une image de la vie mystique, de notre relation à Dieu, par exemple. Puis il va utiliser évidemment les mots. Hein. Quand il parle de la nuée qui va guider les Hébreux, en fait, la nuée, en grec, ça se dit gnophos. Donc cette nuée lumineuse, la nuit, et qui protège du soleil le jour, donc ce qui va les guider, donc qui va leur donner la connaissance du chemin qui conduit à la vie. C'est entre gnophos qui est la nuée et gnosis qui est la connaissance. Vous voyez, il y a une allitération. Donc il va jouer sur plein de choses de ce genre pour essayer de... Alors c'est... Puis alors en plus, de temps en temps, il a des petites réactions, il se dit... Mais enfin, comment ça se fait que Dieu ordonne de tuer tous les premiers-nés des Égyptiens, ces pauvres premiers-nés? Ils n'avaient rien fait. Ils ne sont pas du tout coupables. Et puis, Ézéchiel dit bien que ce ne sont pas les enfants qui doivent être punis pour les fautes des parents, etc. etc. Donc, il dit, comment comprendre ça? Alors, il dit, surtout pas au sens littéral. Alors, il dit, le sens littéral, hop, il s'en débarrasse. Et puis, il va commencer à prendre ça au sens spirituel. Parce que, comme saint Paul avait dit que toute écriture est faite pour notre enseignement, alors, en fait, il va prendre l'écriture vraiment comme un enseignement. Et quand ça nous enseigne des choses contraires à l'évangile, il dit qu'il faut comprendre autrement, voilà. Mais pas au sens littéral. Alors à un autre moment, il dira la même chose. Quand Dieu demande à Moïse que les Juifs se fassent prêter les objets précieux des Égyptiens, il dit, mais c'est quand même pas normal, parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas les rendre, qu'ils ne vont pas les rendre. Donc, c'est mentir et voler. Donc, ce n'est pas bien du tout. Comment Dieu peut demander des choses pareilles? C'est contraire à la morale. Alors, il dit, mais il faut comprendre ça au sens spirituel. Et là, il va dire, qu'est-ce que c'est que les spolia egyptiorum? C'est le terme qui va traverser toute la tradition. Eh bien, en fait, ce sont les richesses de la culture profane. Que le chrétien doit prendre avec lui, il les emprunte sans les rendre aux païens, puisque les païens, il n'y en a plus. Donc, il les emprunte aux païens sans désir de les leur rendre, pour les faire servir aux chrétiens. Alors, après, il va avoir des tas de choses comme ça. Enfin, qu'est-ce qu'il va dire? Enfin, bref. J'en reviendrai un peu dessus. Alors voilà, les lettres. Alors, donc, il est très imprégné de platonisme, de cette méthode allégorique alexandrine qu'on avait déjà étudiée quand on avait vu l'école d'Alexandrie. Et un professeur hongrois des années 40 qui s'est réfugié ensuite à Vienne, qui s'appelait Endres von Ivanka, écrit un bouquin qui s'appelle Plato Christianus, une grande étude sur le platonisme christianisé. Et il dit que le seul qui ait vraiment réussi à concilier la pensée d'Aristote, la pensée de Platon, dans une parfaite orthodoxie chrétienne, c'est Grégoire de Nyssa. Donc il dit, pour lui, c'est le platonicien chrétien abouti. Les autres sont restés trop du côté de Platon. Par exemple, Origène est resté quand même très platonicien, et ratant certains tournants chrétiens. Tandis que, lui, vous voyez, on pourrait dire que Grégoire de Nyssa, c'est un peu comme saint Thomas d'Aquin vis-à-vis d'Aristote. C'est-à-dire qu'il a réussi vraiment à acclimater Platon dans le christianisme, d'ailleurs en même temps qu'Aristote. Et alors que par exemple Albert le Grand, le maître de Thomas, il n'avait pas réussi à faire la synthèse, il juxtaposait un peu les éléments. Et très souvent les autres pères juxtaposent des éléments chrétiens, des éléments platoniciens, voilà. Et Van Ivanka montre comment Grégoire de Nyssa avait cette pénétration intellectuelle, spéculative, qui lui a permis de dominer son sujet, vous voyez. Ce qui n'était pas gagné, hein. Mais donc voilà, un auteur de premier ordre. Et ces dernières années, alors donc, par exemple, mais il était assez, par exemple, dans la vie de Moïse, il propose comme hypothèse l'hypocatastase, l'apocatastase origénienne, en disant que ça lui paraît vraisemblable, mais il ne le soutient pas comme une vérité, mais ça lui paraît une disons que la miséricorde divine puisse s'étendre à tous. Alors, Donc, dans ces dernières années, il se retire de ses fonctions et il va être de plus en plus marqué par la théologie mystique. Et c'est là qu'on aura sa vie de Moïse, qui est écrite vers 393, à peu près, probablement l'année qui a précédé sa mort, qui est adressée à un jeune moine. Et ses homélies sur le cantique est une reprise de ce qu'il avait déjà dit sur le cantique des cantiques, et où le texte sert de prétexte, en fait. Enfin, quand on lit ces auteurs du patristique, ils ne sont pas des commentateurs ou ils n'expliquent pas le texte. En fait, ils se servent du texte comme prétexte pour dire ce qu'ils ont à dire. Et c'est ça qui nous paraît si arbitraire, d'une certaine manière. Parce que nous, on est dans la logique du commentaire de texte. Alors, le commentaire de texte, qui peut être assez plat, d'ailleurs, mais qui peut être aussi très, très, très riche aussi, parce qu'on donne au texte la possibilité d'exhaler tout ce qu'il possède, hein. Mais on s'efface. Tandis que les auteurs de ces auteurs-là, en fait, qui sont des théologiens, qui ont une expérience spirituelle, théologique, etc., en fait, ils se servent du texte pour expliquer, pour dire ce qu'ils ont à dire.
Une première fusée, quoi.
Oui, oui. Et alors, le texte sert un peu de prétexte, hein, si on peut dire. Et il ne s'arrête pas trop au contexte. Alors là, ça ne les intéresse pas du tout. Alors, ça dépend. Il y en a certains qui font quelques petites embardées dans l'histoire. Alors, ces activités d'évêque, donc, ne l'ont pas distrait de l'essentiel. Mais en le centrant, alors par amour pour son frère Basile, sur l'Église, et en lui faisant assumer des responsabilités qu'il n'avait pas prévues, bah, d'une certaine manière, elles l'ont libéré de lui-même. Hein. Vous voyez, c'est un peu comme Grégoire de Nazianze qui, contre ses penchants, ses inclinations personnelles, a accepté de se mettre au service finalement de l'Église. Hein, un bel exemple encore de ça, moi je pourrais en citer deux aujourd'hui d'évêques, hein. C'est Ratzinger, qui a renoncé à son œuvre personnelle parce que là aussi, il a traîné des pieds quand on l'a nommé archevêque de Munich. Et puis après, il a traîné encore les pieds quand il a été nommé cardinal, enfin, il a été nommé préfet de la doctrine de la foi. Probablement qu'il a dû traîner les pieds aussi quand il a été élu pape. Donc voilà, à chaque fois, il a renoncé à ce qui était son désir propre pour être au service de l'Église. Et un autre exemple que je donnerais, moi, c'est Monseigneur Léonard, qui était vraiment un très brillant philosophe et théologien, et qui a accepté un peu à contre-cœur d'être évêque de Namur. Et là, bah, finalement, il a travaillé, il a fait de la pastorale. Il a renoncé un peu à ses... Alors, il a mis en ordre ses écrits théologiques et philosophiques. Mais il s'est donné à son travail, puis après, comme archevêque de Malines-Bruxelles, et en plus, pour toute la reconnaissance qu'il en a reçue.
Oui.
Voilà.
Tout.